Jérôme, clappa Jérôme. Je dédie cette œuvre insignifiante d'un écolier très humble au bon guide qui, sans me diriger, me conduit dans le droit chemin, au philosophe bon vivant qui, s'il n'a pas pu m'amener à supporter le mal dedans avec patience, m'a cependant soutenu par la pensée que cet incident ne serait que passager, au bon ami qui sourit quand je lui fais part de mes ennuis et qui, lorsque j'appelle au secours, ne fait que répondre « Attends !» à l'ironiste à la figure grave, pour lequel la vie n'est qu'un recueil d'épisodes humoristiques, au bon maître, le temps. Trois hommes en balade, chapitre premier. « Ce qu'il nous faudrait, dit Harris, ce serait un peu de distraction. » À ce moment, la porte s'ouvrit, et Madame Harris, passant la tête dans l'entrebâillement, nous dit que Thalberta envoyait me rappeler qu'il ne fallait pas rentrer trop tard à cause de Clarence. Je suis enclin à penser que Thalberta se tourmente trop volontiers sur le compte des enfants. L'état de ce petit n'offre en somme aucune gravité. Il est sorti le matin avec sa tante. S'il a le malheur étant avec elle de regarder l'aventure d'un pâtissier, elle le fait entrer et le bourre de choux à la crème et de buns jusqu'à ce qu'il se déclare rassasié et refuse avec politesse et fermeté de manger quoi que ce soit de plus. Résultat, il a du mal à avaler un peu de purée à déjeuner et sa mère craint qu'il ne couve une maladie grave. Madame Harris ajoute que nous ferions bien de nous dépêcher de monter pour ne pas manquer la récitation de The Mad Hatter's Ten Party tirée d'Alice in Wonderland. Muriel, c'est la récitante, est la deuxième enfant de Harris. Elle a 8 ans. C'est une fille intelligente et gaie, mais pour ma part, je la préfère dans les pièces sérieuses. Nous répondons que nous finissons nos cigarettes, que nous viendrons tout de suite après et nous supplions Madame Harris de ne pas laisser Muriel commencer avant notre arrivée. Elle promet de tout faire pour calmer le zèle de l'enfant et s'en va. Harris, la porte fermée, reprit sa phrase interrompue. « Vous comprenez ce que je voulais dire, un changement total. » « Mais comment le réaliser ?» George proposa un voyage d'affaires. Un jeune ingénieur avait, je m'en souviens, projeté un de ses voyages d'affaires pour Vienne. Sa femme lui demanda de préciser ses projets. Il s'agissait de visiter des mines aux alentours de la capitale autrichienne et de rédiger des rapports. Elle désira l'accompagner. C'était une femme à ça. Il fit l'impossible pour l'en dissuader, alléguant que la place d'une jolie femme n'était pas dans une mine. Elle était bien de cet avis. Aussi n'avait-elle nullement l'intention de l'accompagner dans les puits. Simplement, elle le mettrait en voiture chaque matin, puis se distrairait jusqu'à son retour, en admirant les boutiques et en y achetant d'aventure ce qui la tenterait. Ayant lancé l'idée, il ne voyait plus maintenant le moyen de se tirer de là, et pendant 10 longues journées d'été, il fut condamné à inspecter les mines des environs de Vienne et le soir à rédiger des rapports. Il les expédiait à son patron, qui ne savait qu'en faire. Bon, je rappelais ce précédent et en fis l'application à notre cas. Bon, je serais navré de croire que Ethelberta et Madame Harris appartiennent à cette catégorie d'épouses. Cependant, ne recourons pas pour cette fois au prétexte affaire. Réservons cet échappatoire pour le cas d'absolue nécessité. Non, allons-y carrément. Voici ce que j'expliquerai à Ethelberta. J'ai remarqué, lui dirais-je, que jamais mortel n'estime à sa juste valeur un bonheur qui est constamment à sa portée. J'ajouterai qu'afin de lui permettre d'apprécier mes qualités personnelles, je jugeais opportun de m'arracher à sa société et à celle des enfants pour 3 semaines au moins. Je lui dirai, continuai-je en m'adressant à Harris, que c'est vous qui m'avez fait comprendre cela, que c'est à vous que nous devons... » Harris posa vivement son verre. « Oh, si cela ne vous fait rien, mon vieux, je préférerais autre chose. Elle en parlerait à ma femme. Je serais désolé de recevoir des remerciements que je ne mérite pas. » « Mais si, vous les méritez, car c'est bien vous qui... » Harris m'interrompit encore. « Non, c'est de vous que vient l'idée. Vous vous rappelez avoir dit que c'est une erreur de s'enliser dans la béatitude domestique et qu'une félicité ininterrompue alourdit le cerveau. Oh, je parlais en général. Et précisément, continua Harris, je me proposais de parler à Clara de votre suggestion. Elle apprécie beaucoup votre intelligence, je le sais, et je suis sûr que si... Oh, ne courons pas ce risque, interrompis-je à mon tour. Il y a là un problème délicat, j'en en trouve la solution. Nous dirons que le projet nous a été suggéré par Georges. Il arrive à Georges de manquer d'obligeance. C'est une remarque que j'ai eu l'occasion et le regret de faire. Vous auriez cru qu'il allait être enchanté des deux vieux camarades à se tirer d'embarras. Ah non, il devint agressif. Essayez, dit-il. Et moi, je dirais que mon plan, tout au contraire, avait été de partir en bande avec femme et enfant. J'aurais emmené ma tante, nous aurions loué un vieux château délicieux, que je connais en Normandie, dans un endroit où le climat convient particulièrement aux enfants délicats et où le lait est tel qu'on n'en trouve pas de pareil en Angleterre. J'ajouterais que vous avez singulièrement exagéré en avançant que nous serions plus heureux voyageant seuls. On n'arrive à rien avec Georges par la douceur. Il faut montrer de la fermeté. « Dites-leur cela !» s'écria Harris, « et voici ce que je proposerai à mon tour. Nous louerons ce château. Vous emmènerez votre tante, ça j'y tiens, et vous verrez l'agrément de ce mois de vacances. Les enfants raffolent tous de vous. J'y et moi, nous disparaîtrons. Vous avez déjà promis à Edgar de l'initier à l'art de la pêche. Ce sera encore vous qui jouerez aux animaux sauvages. Dick et Muriel... depuis dimanche, ne font que parler de votre apparition en hippopotame. Nous ferons des pique-niques dans la forêt. Nous ne serons que 11. Le soir, un peu de musique et on dira des vers. Muriel possède déjà 6 morceaux et les autres enfants, tous, apprennent très vite. » Ces menaces rabattirent le caquet de Georges et le petit incident clos, la question se posa de rechef. Que ferions-nous ? Harris, comme toujours, penchait pour la mer. Il nous parla d'un petit yacht, juste ce qu'il nous fallait, un yacht que nous pourrions manœuvrer nous-mêmes, sans l'aide d'une bande odieuse de fainéants, de ces gens qui ne savent que flâner à votre bord, ajouter aux dépenses, et qui enlèvent au voyage son charme et sa poésie. Il se targuait de le faire marcher, son yacht, avec le seul concours d'un mousse débrouillard. Nous connaissions ce genre de yacht et nous le lui dîmes. Nous avions déjà passé par là, Harris et moi. À l'exclusion de tout autre parfum, ce bateau sent la vase et les herbes pourries, arômes contre lesquels l'air pur de la mer ne saurait lutter. Il n'y a pas d'abri contre la pluie. Le salon a 10 pieds sur 4. La moitié en est occupée par un poêle qui s'effondre quand on veut l'allumer. Vous êtes forcé de prendre votre tub sur le pont, et le vent emporte votre peignoir au moment même où vous sortez de l'eau. Harris et le mousse feraient tout le travail intéressant. Hisser la voile, gouverner, nager debout au vent, prendre des risques. À eux tous, les agréments, tandis que Georges et moi, nous éplucherions les pommes de terre et ferions le ménage. « Soit, concéda-t-il, prenons un beau yacht avec un capitaine et laissons les choses grandement. » Oh, je m'y opposais encore. Je les connais, ces capitaines, et leur manière de naviguer. Jadis, il y a des années, jeune et sans expérience, je louais un yacht. La coïncidence de 3 événements m'avait fait commettre cette folie. Et seul Bertha avait le désir de respirer l'air pur de la mer. J'avais eu un coup de chance et le lendemain matin même, au club, mes yeux étaient tombés sur un numéro du Sportsman où je lus l'annonce suivante. aux amateurs de yachting, occasion unique. L'espiègle, le yacht, 28 tonnes, le propriétaire, subitement rappelé pour affaires, louerait ce lévrier de l'océan, yacht superbement agencé pour période courte ou longue. Deux cabines, salon, piano Waffenkopf, chaudière en cuir neuf, 10 guinées par semaine. S'adresser à Perdway and Company, 3 Bunkelsbury. Ça m'avait fait l'effet d'une révélation du ciel. La chaudière en cuivre neuf importait peu. Je pensais qu'on pourrait attendre pour faire notre petite lessive. Mais le piano Wackenmuff m'intéressait. Je voyais déjà Eselberta jouant le soir quelques chansons dont l'équipage, avec un peu d'entraînement, reprendrait le refrain, tandis que notre demeure mobile bondirait tel un lévrier agile à travers les ondes argentées. Je hélai un câble et me fis conduire directement à Buskesbury. M. Pertwee, un quidam d'aspect modeste, avait un bureau sans prétention au troisième étage. Il me montra une image à l'aquarelle de l'espiègle fuyant sous le vent. Le pont était incliné à quelque 90 degrés sur l'océan. Aucun être humain n'était visible sur ce pont. Je suppose qu'ils avaient tous glissé à l'eau. Je ne vois pas en effet comment on aurait pu s'y maintenir, à moins d'y avoir été doué. Écloué. Je fis remarquer cette circonstance fâcheuse à l'agent. Oh, il m'expliqua que l'espiègle était représenté au plus près, serré, lors de la victoire fameuse qu'il remporta dans la Coupe Challenge de la Medway. M. Pertwee me croyait au courant de cet événement, et je préférais m'abstenir de le questionner. Deux petites taches près du cadre que j'avais d'abord prises pour des mouches représentaient, paraît-il, les deuxièmes et troisièmes gagnants de cette course célèbre. Une photographie du yacht ancrée près de Gravesend était moins impressionnante, mais éveillait l'idée d'une plus grande stabilité. Toutes les réponses à mes questions ayant été favorables, je louai pour 15 jours. M. Pertwee dit qu'il se félicitait de ce que je ne retinsse pas son yacht pour plus longtemps. J'arrivais plus tard à être tout à fait de son avis, car le laps s'accordait exactement avec une autre location. Si j'avais demandé le yacht pour 3 semaines, il aurait été dans l'obligation de me le refuser. L'affaire étant conclue, M. Pertwee me demanda si j'avais un capitaine en vue. Par chance, je n'en avais pas. Tout semblait tourner en ma faveur, car M. Pertwee était certain que je ne pourrais mieux faire que de garder M. Groyles, actuellement en fonction, homme qui connaissait la mer comme un mari connaît sa femme et n'avait jamais eu à déplorer la perte d'un passager. Ceci se passait dans la matinée et le yacht se trouva être mouillé près de Harwich. Je pus prendre l'express de 10h45 à Liverpool Street et à 1h je causai avec M. Goyles à bord de l'espiègle. C'était un gros homme aux manières paternes. Je lui fis part de mon plan, contourner les îles hollandaises et naviguer lentement vers la Norvège. Il fit « bien, bien » et parut enthousiasmé de cette excursion, disant que ça l'abuserait aussi. Nous abordâmes la question de l'approvisionnement. Il s'enthousiasma encore davantage. J'avoue que la quantité de victuailles proposée par M. Goyles me surprit. Si nous avions vécu au temps de Drake et de la piraterie espagnole, j'aurais pu craindre qu'il ne machinât un coup. Cependant, il riait avec sa bonhomie paternelle, assurant que nous n'exagérions pas. Les restes, s'il devait y en avoir, l'équipage se les partagerait et les emporterait, selon la coutume. Il me sembla que j'approvisionnais ces hommes pour tout l'hiver, mais, ne voulant pas paraître avare, je ne dis plus rien. La quantité de boissons réclamées m'étonna également. « Mais nous n'allons pas, dis-je, faire les apprêts d'une orgie, monsieur Weiss. Orgie. Voyons, ils ne prendront qu'une goutte d'alcool dans leur thé. Il m'exposa sa devise, recruter de bons matelots et bien les traiter. Ils travaillent de meilleur cœur et, une autre fois, reviennent à votre service. Je ne tenais pas à ce qu'ils revinssent jamais à mon service. Je commençais à me dégoûter d'eux avant de les avoir vus, les considérant comme un équipage par trop vorace et altéré. M. Goltz était si plein d'entrain et moi tellement inexpérimenté que là encore je laissais faire. Je lui laissai aussi le soin d'enrôler l'équipage. Il dit qu'il en viendrait à bout avec deux hommes et un mousse. S'il faisait allusion au nettoiement des victuailles et des boissons, il n'y pouvait réussir avec si peu de monde. Mais peut-être voulait-il parler de la conduite du yacht. En entrant, je passai chez mon tailleur et commandai un costume de yachting avec casquette blanche. Il promit de se dépêcher et de me le livrer en temps voulu. Puis je rentrai raconter à Ethelberta l'emploi de mon temps. Sa joie ne fut troublée que par cette seule pensée. La couturière aurait-elle le temps de lui faire un costume? Ah, voilà bien les femmes! Mariés depuis peu, nous décidâmes de m'inviter personne. Je rends grâce au ciel de cette décision. Le lundi, nous nous équipâmes de pied en cap et partîmes. Je ne sais plus ce que portait Ethelberta, en tout cas elle était fort élégante. Mon costume bleu, garni d'une étroite tresse blanche, faisait aussi très bon effet. Monsieur Goyce vint à notre rencontre sur le pont et annonça que le lunch était servi. Je dois reconnaître qu'il s'était assuré les services d'un très bon cuisinier. Je n'eus pas l'occasion de juger les capacités des autres membres de l'équipage. Cependant, je peux dire qu'au repos, il paraissait former une bande joyeuse. Mon projet était tel. Sitôt terminé le déjeuner des hommes, nous lèverions l'ancre. Penché sur le bastingage, et Florbert et moi le cigare au bec, nous suivions à l'horizon le subtil effacement des falaises de la patrie. Prêts à réaliser notre part du programme, nous attendions sur le pont. « Oh, ils prennent leur temps, » dit-elle. « Oh, s'ils veulent manger en 15 jours tout ce qui se trouve sur ce yacht, ils mettront du temps à chaque repas. » Ne les pressons pas, sinon ils n'arriveraient pas à en finir le quart. Ils se sont peut-être endormis, remarqua plus tard Ethelberta. Il va bientôt être l'heure du thé. Sans contredit, ces gaillards-là étaient placides. Je m'avançai et hélai le capitaine Goyles par les coutilles. Je le hélai par 3 fois. Enfin, il monta lentement. Il me sembla vieilli, plus lourd, entre ses lèvres un cigare éteint. Il retira de la bouche son bout de cigare. « Quand vous serez prêt, capitaine Goyce, dis-je, nous partirons. »« Ah, pas aujourd'hui, monsieur, pas aujourd'hui. »« Pourquoi pas aujourd'hui ?»« Je sais que les marins sont superstitieux, peut-être le lundi, était-il journée faste ?» « Oh, le jour n'y est pour rien, » répondit le capitaine. « C'est le vent qui me donne à réfléchir. Il n'a pas l'air de vouloir tourner. »« Mais a-t-il besoin de tourner ?» demandai-je. « Il me semble qu'il souffle juste dans la bonne direction, droit derrière nous. »« Oui, oui, droit, c'est bien le mot, car nous irions tout droit à la mort. Dieu nous garde de mettre à la voile avec un vent pareil. » « Voyez-vous, » expliqua-t-il, en réponse à mon regard étonné, « c'est ce que nous appelons un vent de terre, parce qu'il souffle directement de terre, si l'on peut dire. » Effectivement, l'homme avait raison, le vent venait de terre. « Il tournera peut-être pendant la nuit, » dit le capitaine pour me réconforter. « Du reste, il n'est pas violent, et l'espiègle tient bien la mer. » Le capitaine Goyce reprit son cigare, et moi je retournai à l'arrière expliquer à Ethelberta la raison de notre retard. Elle paraissait de moins bonne humeur qu'au moment de notre embarquement, et voulut savoir pourquoi nous ne pouvions pas partir avec un vent de terre. « S'il ne soufflait pas de la terre, dit-elle, il soufflerait de la mer, et nous renverrait vers la côte. Il me semble que nous avons juste le vent qu'il nous faut. » « Ah, tu manques d'expérience, mon amour. Ce vent semble bien le vent qu'il nous faut, mais il ne l'est pas. C'est ce que nous appelons un vent de terre, et le vent de terre est toujours très dangereux. » Et Felberta voulut savoir pourquoi un vent de terre était toujours dangereux. Ces questions m'impatientaient. Peut-être étais-je légèrement irrité. Le tangage uniforme d'un petit yacht entrait et déprime même l'esprit le plus ferme. « Je ne saurais te l'expliquer, continuai-je. » Et c'était la vérité. « Mais ce serait le comble de la témérité de mettre la voile avec ce vent. Et je t'aime trop, chérie, pour t'exposer à de pareils risques. » Ma phrase me parut élégante. Mais Ethelberta répondit simplement qu'elle regrettait dans ces conditions d'être venue à bord avant mardi, et elle descendit. Le lendemain matin, le vent tourna au nord. Je m'étais levé de bonne heure et fis remarquer cette saute au capitaine. « Oui, oui, monsieur, déclara-t-il, c'est fâcheux, mais nous n'y pouvons rien. »« Vous ne pensez pas pouvoir partir aujourd'hui ?» hasardai-je. Il rit et ne se fâcha pas. Monsieur, si vous aviez l'intention d'aller à Ipswich, je vous dirais, tout est au mieux. Mais notre destination étant, voyez-vous, la côte hollandaise, eh bien, voilà. Je communiquai la nouvelle à Ethelberta et nous décidâmes de passer la journée à terre. Harwich n'est pas une ville gaie. Vers le soir, on pourrait dire qu'elle est morne. Nous prîmes du thé et des sandwiches à Dovencourt et retournâmes sur le quai pour retrouver le capitaine Goyles et le bateau. Nous attendîmes le premier pendant une heure. Quand il arriva, il était plus gai que nous. Il ne m'avait pas affirmé qu'il ne buvait jamais qu'un grog chaud avant de se toucher. J'aurais eu l'idée de croire qu'il était gris. Le lendemain matin, le vent venait du sud, ce qui rendit le capitaine plutôt anxieux. Il paraît qu'il était tout aussi dangereux de s'en aller que de rester où nous étions. Notre seul espoir était que le vent tournât avant qu'un malheur irréparable fût arrivé. Entre-temps, Ethelberta avait pris le yacht en grippe. Elle dit qu'elle aurait préféré passer une semaine dans une cabine de bain, vu qu'une cabine de bain était du moins immobile. Nous passâmes un autre jour à Harwich, et cette nuit-là, ainsi que la suivante, le vent continuant à être au sud, nous couchâmes à la tête couronnée. Le vendredi, le vent souffla directement de la mer. Je rencontrai le capitaine sur le quai et lui suggérai que, vu cette circonstance, nous pourrions partir. Il me parut irrité de mon insistance. Si vous étiez un peu plus au courant des choses de la mer, monsieur, vous verriez par vous-même que c'est impossible. Le vent souffle droit de la mer. » Capitaine Goyles, pouvez-vous me dire quel est l'objet que j'ai loué? Est-ce un yacht ou une maison flottante? Je demande par là si on peut mettre l'espiègle en mouvement ou s'il est condamné à l'immobilité, auquel cas vous me le diriez franchement. Nous décorerions le pont de caisses garnies de lierre, nous ajouterions quelques plantes fleuries, nous installerions une marquise, ce serait un lieu fort agréable. Si au contraire on pouvait mettre l'objet en mouvement... » En mouvement, interrompit le capitaine, il faudrait pour cela avoir le bon vent. Mais quel est le bon vent? Le capitaine Goyle sembla embarrassé. Je continuai. Au courant de la semaine, nous avons eu vent du nord, vent du sud, vent de l'est et vent de l'ouest, avec des variations. Je n'attendais encore que si vous pouviez me désigner une cinquième direction sur la boussole. Sinon, à moins que l'ancre n'ait pris racine, nous la lèverons aujourd'hui même et nous verrons ce qui arrivera. Il comprit que j'étais décidé. « Très bien, monsieur, jeta-t-il, vous êtes le maître et moi l'employé. Je n'ai plus qu'un enfant à ma charge, grâce à Dieu, et sans aucun doute, vos exécuteurs comprendront leur devoir vis-à-vis de ma vieille. » Son ton solennel m'impressionna. « Monsieur Gall, soyez franc, y a-t-il un espoir quelconque de quitter ce trou maudit par un temps quel qu'il soit ?» Le capitaine Goyles me répondit gentiment. « Ah, voyez-vous, monsieur, cette côte est très particulière. Une fois loin d'elle, tout irait bien, mais sans détacher sur une coquille de noix comme celle-ci. Eh bien, pour être franc, monsieur, ce serait dur. » Je le quittai avec l'assurance qu'il surveillerait le temps comme une mère veille sur le sommeil de son enfant. Ce fut sa propre comparaison. Je le revis à midi, il surveillait le temps de la fenêtre du Chêne et Ancre. À 5 heures, ce jour-là, un heureux hasard nous fit rencontrer dans Hyde Street deux yachtmen de mes amis. Par suite d'une avarie au gouvernail, ils avaient dû atterrir. Je leur racontai mon histoire. Ils en semblèrent moins surpris qu'amusé. Le capitaine Goyles et les deux hommes surveillaient toujours le temps. Je courus à l'hôtel et mis Ethelberta au courant. Tous quatre, nous nous faufilâmes jusqu'au quai où nous trouvâmes notre bateau amarré. Seul le mousse était à bord. Mes deux amis se chargèrent du yacht et vers 6 heures, nous filions joyeusement le long de la côte. Nous passâmes la nuit à Aldborough et le lendemain poussâmes jusqu'à Yarmouth, où mes amis se trouvèrent forcés de nous quitter. Je me décidai à abandonner le yacht. Le matin, de bonne heure, je vendis nos provisions aux enchères sur la plage de Yarmouth. Je le fis avec perte, mais j'eus la satisfaction de rouler le capitaine Goyles. Je confiai l'espiègle à un marin de l'endroit qui promit de le ramener pour 2 sovereigns à Harwich. Nous rentrâmes à Londres par le train. Il se peut qu'il existe d'autres yachts que l'espiègle et d'autres patrons que le capitaine Goyles, mais cette aventure m'a vacciné contre tout désir de récidive. George confirma qu'un yacht entraînait en outre beaucoup de responsabilités et nous en abandonnâmes l'idée. « Que penseriez-vous de la rivière ?» suggéra Harris. « Nous y avons passé de bons moments. » George continua à fumer en silence. Je cassai une autre noix. « Oh, la rivière n'est plus ce qu'elle a été, dis-je. Je ne sais pas exactement comment cela se fait, mais il y existe un je-ne-sais-quoi dans l'air, une sorte d'humidité qui, chaque fois que j'en approche, réveille mon lumbago. » Et moi, remarqua Georges, j'ignore le pourquoi de la chose, mais je ne puis plus dormir dans son voisinage. J'ai passé une semaine chez James au printemps. Toutes les nuits, je me réveillais à 7 heures. Il m'était impossible de refermer l'œil. Oh, je n'avais fait que la proposer sans y attacher grande importance, dit Harris, car cela ne me vaut rien non plus. Mon séjour s'y achève invariablement sur une attaque de gouttes. Ce qui me réussit le mieux, dis-je, c'est l'air de la montagne. Que penseriez-vous d'un voyage pédestre à travers l'Écosse ? Bon, il fait toujours humide en Écosse, s'écria Georges. J'y ai passé 3 semaines l'année avant-dernière, sans y avoir jamais eu le corps ni le gosier sec, si j'ose dire. Pourquoi pas la Suisse ? Et Harris. J'objectais, mais jamais, elles ne nous laisseront aller seules en Suisse. Vous savez ce qu'il en advint la dernière fois? Il nous faut un endroit où ni femme ni enfant, habitués à un certain confort, ne voudraient résider, un pays de mauvais hôtels, de communications difficiles, où nous vivrions à la dure, où nous devrions trimer, jeûner peut-être. Hey, doucement, interrompit Georges, doucement, vous oubliez que je pars avec vous. J'y suis, s'exclama Harris, une balade à bicyclette. Georges eut l'air d'hésiter. Mais il y a pas mal de montées, songez-y, on a le vent debout. Soit, mais aussi des descentes avec le vent dans le dos. M'en suis jamais aperçu, dit Georges. Vous ne trouverez pas mieux qu'un voyage à bicyclette, persista Harris. Je me sentais enclin à l'approuver. Et je vous dirai même où aller, continua-t-il, à travers la forêt noire. Mais elle est tout en montée, riposta Georges. Mais il y a des petits trains qui gravissent ces hauteurs, des petits trucs à roues dentées qui... La porte s'ouvrit, et Madame Harris apparut. Elle dit qu'Ethelberta était en train de mettre son chapeau et que Muriel, lasse d'attendre, avait récité sans nous « The Medlathers Tea Party » au club demain 4 heures, me chuchota Harris en se levant. Je passai la consigne à Georges en montant l'escalier. « Pas toutes, mettons les 2/3. Il y a une commodité que vous oubliez. » Il regarda autour de lui avec précaution et chuchota je ne sais quoi. Chapitre 2. Le soir même, j'entamais le débat avec Ethelberta. J'affectais d'être irritable. Je m'attendais à ce qu'Ethelberta fît une remarque à ce sujet. J'en aurais admis le bien fondé, attribuant mon état à un peu de surmenage cérébral. Une fois sur le chapitre de ma santé, l'urgence de remèdes radicaux nous apparaîtrait. Avec du tact, j'amènerais Ethelberta à prendre l'initiative de la décision. J'imaginais qu'elle dirait « Oh mon chéri, c'est un changement de régime qu'il te faut, un changement complet. Laisse-toi persuader et pars pour un mois. Non, ne me demande pas de t'accompagner. Je sais que tu te le préférerais, mais je ne veux pas. C'est la société d'hommes qu'il te faut. Essaye de décider Georges et Harris à t'accompagner. Crois-moi, une tension d'esprit perpétuelle réclame de temps à autre un relâchement de l'effort journalier. Tâche pour quelque temps d'oublier qu'il faut aux enfants des leçons de musique, des bottines, des bicyclettes et de la rhubarbe 3 fois par jour. Tâche d'oublier qu'il existe ce qu'on appelle des cuisinières, des tapissiers, des chiens de voisins et des notes de boucher. Va-t'en te mettre au vert et choisis loin d'ici un endroit où tout te sera nouveau, où ton cerveau surmené pourra se retremper dans une atmosphère de calme et d'oubli. Reste absent quelque temps. Donne-moi le loisir de te regretter et de méditer sur ta bonté, sur tes qualités, que j'ai continuellement sous les yeux, que je pourrais oublier. Car ce serait humain, puisqu'on devient facilement indifférent aux bienfaits du soleil et aux beautés de la lune. Va-t'en, et reviens-nous reposer de corps et d'âme, plus brillant, meilleur si possible. Mais, même lorsque nos désirs s'accomplissent, jamais le bonheur ne se présente tel exactement que nous l'aurions souhaité. Pour commencer, Ethelberta ne sembla pas remarquer mon énervement. Il fallut que je forçasse son attention. Je fis... « Oh, excuse-moi, je ne suis pas bien ce soir. »« Tiens, » me répondit-elle, « je n'avais rien remarqué. Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Oh, je ne saurais te l'expliquer, je sens venir cela depuis des semaines. »« Oh, mais c'est ce whisky. Jamais tu n'y touches, sauf quand nous allons chez les Harris. Tu sais pourtant que tu ne le supportes pas. Tu n'as pas la tête solide. » Oh, ce n'est pas le whisky, c'est plus sérieux que cela. Je pense que c'est une affection plutôt mentale que physique. Oh, tu as encore lu ces critiques, dit Somerset avec un peu plus de sympathie. Mais pourquoi, selon mon conseil, ne les as-tu pas jetés au feu? Ce ne sont pas les critiques, elles ont même été flatteuses, enfin du moins les deux ou trois dernières. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Car il y a sûrement une raison. Non, il n'y en a pas. Et c'est cela qui est étonnant. Je défierais mon état, une sensation étrange d'agitation. Il me sembla qu'Ethelbertha me scrutait bizarrement. Mais comme elle ne dit rien, je continuais. Cette grise monotonie de la vie, ces journées paisibles, de félicité sans événement, finissent par me peser. Voilà-t-il pas de quoi se plaindre? S'écria Ethelbertha. Nous pourrions avoir des journées d'une autre teinte et les aimer encore moins. Mais je suis pas sûr. Je peux m'imaginer la douleur comme une diversion bienvenue dans une vie faite d'une joie ininterrompue. Je me demande quelquefois si les saints au paradis ne considèrent pas cette félicité continue comme un fardeau. Pour mon compte, j'ai l'impression qu'une vie de bonheur éternel, jamais coupée d'une note discordante, me rendrait fou. Sans doute suis-je un être particulier, il y a des moments où je ne me comprends plus. Il m'arrive alors de me détester. Souvent, un petit discours de cette sorte faisait allusion à des émotions indescriptibles et occultes, avait ému Ethelbertha, mais ce soir-là, elle parut étrangement insouciante. Touchant le paradis et son effet sur moi, elle me conseilla de ne pas trop m'en tourmenter. C'était toujours folie d'aller au-devant d'ennui, qui peut-être n'arriverait jamais. Que je fusse un garçon un peu étrange, ce n'était pas ma faute, et du moment que d'autres consentaient à me supporter, toute dissertation à ce sujet était vaine. Quant à la monotonie de la vie, comme c'était une épreuve commune là-dessus, nous pouvions du moins sympathiser. Tu ne te doutes pas combien quelquefois j'ai envie, continua Ethelbertha, de m'échapper, de m'éloigner, même de toi. Mais sachant que c'est impossible, je ne m'arrête pas à cette éventualité. Jamais je n'avais entendu Ethelbertha parler ainsi. Elle m'étonnait et me chagrinait profondément. Ce n'est pas une remarque très affable, remarquai-je, ni bien digne d'une épouse. Mais j'en conviens, admit-elle, c'est bien pour cela que je ne l'avais pas formulée jusqu'ici. Vous autres hommes, vous ne comprendrez jamais que, si vif que puisse être l'amour d'une femme, il y a des moments où elle s'en fatigue. Tu ne sais pas combien de fois j'ai souhaité de pouvoir mettre mon chapeau et sortir sans entendre tes « Où vas-tu? Pourquoi vas-tu là? Combien de temps resteras-tu dehors? Quand seras-tu rentré ?» Tu ne sais pas combien souvent l'envie me démange de commander un dîner que j'aimerais et que les enfants aimeraient aussi et qui aurait le don de te faire mettre ton chapeau pour aller dîner au club. Oh, inviter une amie qui me plaît et que je sais te déplaire, aller voir des gens que j'aimerais voir, aller me coucher quand j'aurai sommeil et me lever à mon gré. Deux personnes vivant ensemble sont forcées de se sacrifier mutuellement leurs désirs. C'est quelquefois un bienfait de se relâcher un peu de l'attention journalière. Plus tard seulement, ruminant les paroles d'Ethelbertha, je suis arrivé à en comprendre la sagesse. Mais je le confesse, sur le moment, je me sentis blessé au vif. « Oh, si tu désires, dis-je, être débarrassé de moi. »« Voyons, ne fais pas l'imbécile, » protesta Ethelbertha. « Je voudrais seulement être débarrassé de toi un pauvre moment, juste de quoi oublier les deux ou trois petites imperfections qui te sont inhérentes, juste assez longtemps. » Pour me rappeler quel charmant garçon tu es par ailleurs et me réjouir d'avance de ton retour. Le ton d'Ethelbertha me choquait. Elle paraissait animée d'un esprit de frivolité, s'accordant mal avec le sujet de notre conversation. Je n'aimais pas du tout, et ce n'était guère le genre d'Ethelbertha, qu'elle considéra gaiement une séparation de 3 à 4 semaines. Ce voyage ne me tentait plus. J'y aurais renoncé si je n'étais pas senti engagé vis-à-vis de George et de Harris. Je ne pouvais pas maintenant changer d'avis. C'était une question de dignité. Mais très bien, Ethelbertha, répondis-je. J'agirai selon ton vœu. Tu tiens à être débarrassée de ma présence pendant quelque temps. Tu seras satisfaite. Mais si ce n'est pas chez ton mari, curiosité impertinente, je voudrais bien savoir ce que tu comptes faire pendant mon absence. Nous louerons cette villa de Folkestone et je m'y rendrai avec Kate. Et si tu veux être gentil, tu engageras Harris à aller avec toi. Clara pourra alors se joindre à nous. Toutes trois, nous avons ensemble passé de bons moments avant qu'on ait pensé à vous autres. Ce serait délicieux de les faire revivre. Crois-tu pouvoir persuader M. Harris de partir avec toi ? Je répondis que j'essaierai. Oh, tu es un bon garçon, allez, fais de ton mieux. Peut-être George se laissera-t-il convaincre aussi. Bon, je répondis que je n'en voyais pas la nécessité, vu que George étant célibataire, personne ne profiterait de son absence. Mais jamais femme ne comprit l'ironie. Et Ethelbertha remarqua simplement qu'il serait peu aimable de partir sans lui. Bon, soit, je pressentirai George. Je rencontrai Harris au club et lui demandai où il en était. « Oh, ça va très bien, me dit-il. Elle ne fait aucune difficulté pour mon départ. » Mais il y avait dans sa façon de parler un petit rien qui me fit soupçonner une satisfaction incomplète. Je réclamais de plus amples détails. Elle s'est montrée un agneau quand je lui ai parlé de notre projet. Elle déclare l'idée de George excellente et pense que ce voyage me fera du bien. Tout cela me semble parfait, alors. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Oh, rien n'a mal marché à ce sujet. Mais ensuite, elle parla d'autre chose. J'y suis, dis-je. Oui, il y a sa vieille marotte touchant la salle de bain. Je l'en ai déjà entendu parler. Elle a même poussé Ethelbertha dans cette voie. Eh bien, je vais être obligé de la faire réinstaller immédiatement. Je ne pouvais le lui refuser puisqu'elle avait été si accommodante pour le reste. Oh, j'en aurai pour 100 livres au bas mot. Tant que cela, pas un penny de moins. Le devis déjà se monte à 60 livres. Je l'écoutais avec compassion. Et puis... ce fut le tour du fourneau de cuisine, continua Harris. Tout ce qui a cloché dans cette maison au cours des dernières années est imputable à ce fourneau. Je connais cela, lui dis-je. J'ai habité dans 7 maisons depuis que je suis marié et chaque fourneau a été plus mauvais que son devancier. Celui que nous avons en ce moment est non seulement insuffisant, il est encore malveillant. Il sait quand nous donnons un dîner, et alors pour faire des farces, il s'éteint. Nous en aurons un neuf, dit Harris, mais il le dit sans aucune fierté. Clara estime qu'il nous en coûtera beaucoup moins de faire exécuter ces 2 travaux d'un coup. Je suppose que si une femme désirait une tiare en diamant, elle trouverait moyen d'expliquer que c'est pour économiser le prix d'un chapeau. « À combien estimez-vous les réparations de votre fourneau ?» demandai-je. Je commençais à m'intéresser à la chose. « Oh, je ne sais pas exactement. Je suppose que j'en aurai encore pour 20 livres. » Nous nous mîmes ensuite à parler du piano. « Avez-vous pu remarquer jamais qu'il existât une différence entre 2 pianos ?»« Oh, certainement, ils ont des sons plus forts les uns que les autres, mais... on finit par s'y habituer. Le soprano de mon piano est en mauvais état. Mais au fait, qu'est-ce que le soprano d'un piano ? Ah, ce sont, expliquai-je, les tons aigus de l'instrument. La partie du clavier qui piaille comme si on lui marchait sur la queue. Les beaux morceaux finissent toujours par une fioriture sur ces notes-là. Elle pêche quant à l'harmonie, celle de notre vieux piano. Faudra que je le mette à la nursery et que j'en achète un neuf pour le salon. Et quoi encore, manquis-je ? Oh, rien, elle m'a semblé capable de découvrir autre chose pour le moment. Mais vous verrez quand vous rentrerez qu'elle aura trouvé autre chose. Que sera-ce ? Une villa à Folkestone pour la saison. Pourquoi cette villa à Folkestone ? Bah pour y vivre cet été. Mais elle est invitée par sa famille à passer les vacances avec les enfants dans le pays de Galles, protesta Harris. Oh, il se peut qu'elle aille dans le pays de Galles avant d'aller à Folkestone, ou bien qu'elle aille dans le pays de Galles en fin de saison. Mais ce qui est certain, c'est qu'il lui faudra une villa à Folkestone. Il est possible que je me trompe, enfin, je l'espère pour vous, mais j'ai comme un pressentiment que je ne me trompe pas. Ce voyage va me coûter cher, dit Harris. Ah, ce fut dès le début, dis-je, une idée stupide. Nous avons été fous d'écouter George, déclare Harris. Il nous vaudra de sérieux ennuis un de ces jours. Il a toujours été gaffeur et si entêté. À ce moment, nous entendîmes la voix de George dans le hall. Il demandait son courrier. Je chuchotais. Il serait préférable de ne rien lui dire, il est trop tard pour rebrousser chemin. Il n'y aurait aucun avantage à le rebrousser, puisqu'en tout état de cause, je devrais faire la dépense de cette salle de bain et de ce piano. George entra, joyeux. Eh bien, cela va-t-il ? Avez-vous réussi ? Quelque chose dans sa manière de parler me déplut. Harris me sembla avoir la même impression. « Réussi quoi ? » demandai-je. « Ben, à pouvoir vous absenter. » Je sentis que le moment était venu de donner une leçon à ce garçon. « Quand on est marié, dis-je, l'homme propose et la femme se soumet. C'est son devoir, toutes les religions l'enseignent. » Georges joignit ses mains et fixa ses yeux au plafond. Peut-être nous est-il arrivé quelquefois de plaisanter, de rire de ces choses-là, continuai-je, mais vous allez voir comment on procède quand cela devient sérieux. Nous avons fait part à nos femmes de notre intention de voyager. Elles en ont du chagrin, c'est naturel. Elles préféreraient nous accompagner ou, à défaut, voudraient nous voir rester avec elles. Mais nous leur avons expliqué nos désirs à ce sujet, ce qui a mis fin à toute discussion. Ah, pardonnez-moi, je n'avais pas saisi, je suis qu'un pauvre célibataire. Les gens me racontent ceci et cela, et je les écoute. D'où votre erreur, mon garçon ? Dorénavant avant, quand vous aurez besoin d'explications, venez nous trouver, moi ou Harris. Nous vous dirons la vérité en ces matières. Georges nous remercia et nous continuâmes à adresser nos plans. « Quand partirons-nous ? » demanda-t-il. « Le plus tôt possible, » répondit Harris. Je supposais qu'il espérait s'échapper avant que Madame Harris pût formuler d'autres désirs. Nous nous décidâmes pour le mercredi suivant. « Et où irons-nous ? » reprit Harris. « Sans doute, dit Georges, que vous désirez cultiver votre esprit. »« Oui, répondis-je, à un degré raisonnable, sans prétendre vouloir devenir des phénomènes, si possible sans trop d'efforts personnels et avec le minimum de dépenses. »« Ce sera facile, déclara Georges. Nous connaissons la Hollande et les bords du Rhin, très bien. » Je propose donc que nous prenions le bateau jusqu'à Hambourg, que nous visitions Berlin et Dresde, et que nous nous dirigions ensuite vers la forêt noire par Nuremberg et Stuttgart. On m'a parlé de beaux sites en Mésopotamie, murmura Harris. George estima que la Mésopotamie se trouvait trop en dehors de notre itinéraire, mais que le voyage Berlin-Dresde était très faisable. Il nous persuada, fût-ce un bien, fût-ce un mal. Quant aux machines, je pense, dit George, que nous ferons comme d'habitude, Harris et moi sur le tandem, et je... Oh, je ne m'entends pas, interrompit Harris avec fermeté. Vous et j'ai sur le tandem, moi sur la bicyclette. Bon, cela m'est égal, dit George, j'ai et moi monterons le tandem, Harris. Je lui coupai la parole. Oh, je n'ai pas l'intention de traîner George sous le temps. La charge devra être partagée. Très bien, concéda Harris, nous la partagerons. Mais il est bien entendu qu'il travaillera.
Qu'il fera quoi ? S'exclama George.
Ben qu'il travaillera, répondit Harris avec énergie, en tout cas au bon thé.
Grand Dieu, soupira George, vous n'avez donc pas le moindre besoin d'exercice ?
Le tandem donne invariablement lieu à des altercations. Celui qui est en avant prétend toujours que celui qui est en arrière reste à ne rien faire, tandis que, selon l'avis de celui de derrière, c'est lui seul qui propulse la machine pendant que celui de devant se contente d'être essoufflé. C'est un mystère à jamais impénétrable. Tandis que la prudence, d'une part, vous dit à l'oreille de ne pas outrepasser vos forces pour ne pas attraper une affection cardiaque, pendant que la justice vous chuchote à l'autre oreille. Mais pourquoi t'imposer tout le travail ? Ce véhicule, c'est pas un fiacre. Tu n'es pas chargé du transport d'un client. Il est agaçant d'entendre l'autre grogner, et tout à coup, « Qu'y a-t-il ? Vous avez perdu les pédales ?»
Harris, peu de temps après son mariage, eut des ennuis sérieux, causé par l'impossibilité où il fut de se rendre compte des faits et gestes de la personne qui était assise derrière lui. Il traversait la Hollande à bicyclette avec sa femme. Les routes étaient pierreuses et la machine sautait beaucoup.
« Tiens-toi bien !» dit Harris sans se retourner. Madame Harris crut comprendre « saute à bas ». Aucun d'eux ne peut expliquer comment Madame Harris avait pu entendre « saute » quand il avait dit « tiens-toi bien ».
Madame Harris articule « Mais si tu m'avais dit de bien me tenir, pourquoi aurais-je sauté ?»
Et Harris de riposter « Mais si j'avais voulu que tu sautasses, pourquoi aurais-je dit « tiens-toi bien ?»
Toute amertume est maintenant passée, mais à présent encore il leur arrive de discuter là-dessus.
Qu'on l'explique d'une manière ou d'une autre, le fait que Madame Harris sauta pendant que Harris pédalait de toutes ses forces, persuadé que sa femme était toujours assise derrière lui. Il paraît qu'elle crut d'abord qu'il prenait la côte en vitesse simplement pour se faire admirer. Il était jeune alors, et il lui arrivait de faire de ces sortes de démonstrations. Elle s'attendait à ce qu'il sautât à terre une fois au sommet et l'attendit, adossé à sa machine, dans une attitude pleine de désinvolture. Quand elle le vit, au contraire, dépasser le fait et prendre la descente à une allure rapide, elle fut d'abord surprise, ensuite indignée et enfin inquiète. Elle courut au haut de la colline et cria de toutes ses forces. Il ne tourna pas la tête. Elle le vit disparaître dans un bois situé à 1,5 km, s'assit sur le bord de la route et se mit à pleurer. Ils avaient eu un débat insignifiant le matin même, et elle se demanda s'il ne l'avait pas prise au tragique et ne voulait pas abandonner sa compagne. Elle était sans argent et ignorait le hollandais. Les passants semblèrent la prendre en pitié. Elle essaya de leur expliquer l'incident.
Ils comprirent qu'elle avait perdu quelque chose, mais sans saisir quoi. Ils la conduisirent au village le plus proche et allèrent quérir un garde champêtre. Ce dernier, à ses pantomimes, conclut qu'on lui avait volé sa bicyclette. On fit fonctionner le télégraphe et l'on découvrit dans un village, à 4 kilomètres de là, un malheureux gamin sur une antique bicyclette de dame. On l'amena à Madame Harris dans une charrette, mais comme elle parut n'avoir que faire de lui ni de sa machine, on le remit en liberté sans plus chercher à percer ce mystère. Cependant, Harris continuait à pédaler avec un plaisir croissant. Il lui semblait avoir acquis des ailes. Il dit à ce qu'il croyait être Madame Harris: « Jamais cette machine ne m'a paru aussi légère. L'air pur m'aura fait du bien. » Puis il lui conseilla de ne pas s'effrayer, car il allait lui montrer à quelle allure il pouvait marcher. Il se pencha sur le guidon et se mit à travailler de tout son cœur. La bicyclette bondit comme si elle avait le diable au corps. Des fermes, des églises, des chiens et des poules surgissaient pour disparaître. Des vieillards s'arrêtèrent, admiratifs, et les enfants applaudirent. Il continua de se traîner joyeusement pendant 5 lieues environ. C'est alors qu'il eut le sentiment, enfin, selon son explication, de quelque chose d'anormal. Ce n'était pas le silence qui l'étonnait. Le vent soufflait avec vigueur et la machine faisait beaucoup de bruit. Il fut plutôt frappé par une sensation de vide. Il tâta derrière son dos. Il n'y trouva que l'espace sans limite. Il sauta, ou plutôt tomba de sa machine, regarda la route parcourue. Elle s'étendait droite et blanche à travers la sombre forêt, et nul être animé n'y était visible. Il se remit en selle et, en reboussant chemin, remonta la colline. 10 minutes plus tard, il se retrouva à un endroit où la route se divisait en quatre. Là, il mit pied à terre et essaya de rassembler ses souvenirs pour découvrir par quel chemin il était venu. Tandis qu'il restait ainsi rêveur, un homme passa, assis en Amazone sur un cheval. Harris l'arrêta et lui fit comprendre qu'il avait perdu sa femme. L'homme ne sembla ni surpris ni compatissant. Pendant qu'il causait, un autre fermier les joignit. Le premier présenta au survenant l'affaire, non pas comme un accident, mais comme une histoire plaisante. Ce qui parut surprendre le second fut que Harris manifesta du désespoir. Il ne put rien tirer ni de l'un ni de l'autre. Il proféra un juron, enfourcha sa machine et s'engagea au hasard sur la route du milieu. À mi-côte, il rencontra 2 jeunes femmes accompagnées d'un jeune homme, groupe joyeux. Il leur demanda s'ils avaient aperçu sa femme. Ceux-ci voulurent se faire préciser son aspect. Il ne parlait pas assez bien le hollandais pour en faire une description révélatrice. Tout ce qu'il put leur dire fut que sa femme était une très belle femme, de taille moyenne, ce qui ne sembla pas les satisfaire. N'importe qui aurait pu en dire autant et de cette façon entrer en possession d'une femme qui ne serait pas la sienne. Ils lui demandèrent comment elle était habillée, et quand il se fut agi pour lui de vie ou de mort, il n'aurait pu se le rappeler. Je ne crois pas qu'il existe un homme sur terre capable de décrire une toilette 10 minutes après avoir quitté la femme qui la porte. Il se souvenait d'une jupe bleue, puis il y avait un je ne sais quoi qui prolongeait la robe jusqu'au cou. Ce pouvait être une blouse, et il avait vague souvenance d'une ceinture. Mais quel genre de blouse? Était-elle jaune, verte ou bleue? Avait-elle un col? Était-elle fermée par un nœud? Sa femme avait-elle des fleurs ou des plumes à son chapeau? Avait-elle seulement un chapeau? Il n'osait pas faire de description trop nette, de peur de se méprendre et d'être aiguillé sur une fausse piste à des kilomètres de là. Les deux jeunes femmes ricanaient, ce qui, étant donné ses dispositions d'esprit, eut le don de mettre Harry en colère. Le jeune homme, qui paraissait désireux de se débarrasser de lui, lui suggéra de s'adresser à la police de la ville voisine. Harry s'y rendit. Le commissaire lui donna un papier et lui dit d'y écrire un signalement complet de sa femme, avec des détails sur le lieu et le moment où il l'avait perdue. Ben, tout ce qu'il put leur dire fut le nom du village où ils avaient déjeuné. Ils savaient qu'à ce moment-là, elle accompagnait et qu'ils étaient partis ensemble. Cela parut suspect aux policiers. L'affaire leur semblait louche sur trois points. Premièrement, était-ce vraiment sa femme légitime? Deuxièmement, l'avait-il réellement perdue? Troisièmement, pourquoi l'avait-il perdue? Avec l'aide d'un aubergiste qui parlait un peu l'anglais, il put vaincre leurs scrupules. Ils promirent d'agir, et le soir, ils la lui amenèrent dans une voiture fermée, avec la note à payer. Leur première rencontre ne fut pas tendre. Madame Harris n'est pas une bonne comédienne et éprouve toujours une grande difficulté à déguiser ses sentiments. Pour cette fois, elle le confesse, elle ne l'essaya même pas. D'accord sur les machines, nous entendâmes l'éternelle question des bagages. La liste habituelle, je suppose, dit Georges en se préparant à écrire. C'était là le fruit de mes conseils. Mon oncle Polger, il y a des années, me l'avait enseigné. « Ayez soin, avait coutume de dire mon oncle Polger, avant de vous mettre à emballer, de faire une liste. » C'était un homme très méthodique. « Prenez une feuille de papier. » Il avait coutume en tout de commencer par le commencement. « Inscrivez-y tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Après cela, révisez votre liste pour voir s'il n'y aurait pas moyen de biffer un objet inscrit. Vous êtes joli. Quel est votre habillement? Bon, très bien, inscrivez-le. Ajoutez-en un de rechange. Vous vous levez. Que faites-vous? Vous vous débarbouillez. Avec quoi vous lavez-vous? Avec du savon. Alors écrivez savon. Et ainsi de suite. Prenez maintenant vos vêtements. Commencez par les pieds. Que portez-vous aux pieds? Bottines, souliers, chaussettes? Inscrivez-les. Remontez jusqu'à la tête. Mais que vous faudra-t-il en dehors de l'habillement? Un peu de cognac? Inscrivez-le. Un tire-bouchon? Inscrivez-le. Inscrivez tout! Ainsi vous n'oublierez rien. C'est d'après ce plan-là qu'il procédait toujours. Une fois la liste achevée, il la parcourait soigneusement, ce qu'il recommandait également toujours, pour voir s'il n'avait rien oublié. Ensuite, il la revoyait et biffait tout ce dont il était possible de se passer. Après quoi, il égarait la liste. Georges observa. « Nous pourrions emporter sur nos machines le strict nécessaire pour un jour ou deux. Nous ferions suivre le gros des bagages de ville en ville. » « Soyons prudents, commençais-je. J'ai connu un homme qui... » Harry tira sa montre. « Oh, vous nous raconterez cela sur le bateau. J'ai rendez-vous avec Clara à la gare de Waterloo dans une demi-heure. »« Oh, il ne me faudra pas une demi-heure, protestais-je. C'est une histoire vraie. Conserve-la soigneusement, dit Georges. Je me suis laissé dire qu'il y a bien des soirées pluvieuses dans la forêt noire. Nous vous en serons alors très reconnaissants. Ce que nous devrions faire tout de suite serait de terminer cette liste. Maintenant que j'y pense, jamais je n'ai eu l'occasion de leur raconter cette histoire. Toujours un événement quelconque venait nous interrompre. Et cependant, c'est une histoire vraie. »